jeu, on voulut savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotin.
Bienvenue dans tous les cinémas du monde et bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Une émission qui nous entraînera cette semaine dans un ciné-club de Ouagadougou et puis aussi à Yaoundé au Cameroun où se tient en ce moment même un atelier de formation au cinéma organisé par les ateliers Varan. Nous aurons en ligne ces deux organisateurs, Yves de Peretti et Jean-Marie Thénault. Mais avant, nous vous entraînons dans une folle nuit d'ivresse, mais pas seulement, avec nos invités Gustave Kervern et Benoît Delépine. Bonjour.
Bonjour.
En même temps, c'est le titre de votre nouveau film. On y suit les tribulations du duo le plus improbable de la 5e République. À ma gauche, Pascal Vincent Macaigne, maire on ne peut plus écolo et vertueux d'une petite commune de province. À ma droite, son exact opposé, Didier Jonathan Cohen, réactionnaire, homophobe, volontiers corrupteur et toujours corrompu. Didier et Pascal, donc aussi opposés que le yin et le yang, que la carpe et le lapin, ou disons qu'un bol de soja non transgénique peut l'être d'une tête de veau vinaigrette. Didier et Pascal se retrouvent par un tour de force du destin à la colle, littéralement. Et vous allez nous expliquer pourquoi, Gustave et Benoît, juste après la bande-annonce du film.
Demain, vous votez pour moi. Allez, on tape.
Allez, top. Hop. Même si j'étais pour, je pourrais même pas convaincre les autres.
Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous mange dans la main, là.
Girl power ! À bas le sexe au fort ! Femme le patriarcat !
Je les ai collés tous les deux, ensemble, quoi, l'un derrière l'autre.
Vous m'avez violé!
Non, elle nous a collé!
Gauche, droite, gauche, droite.
Un extrait de votre film, Benoît et Gustave. Donc, les auditeurs ont compris que ces deux-là donc, se retrouvent collés l'un à l'autre. Alors, le duo, l'alliage des contraires, c'est tout un pan de l'histoire du cinéma. Hein. C'est le buddy movie. Mais c'est vrai que physiquement, enfin, anatomiquement liés l'un à l'autre, c'est un petit peu plus rare. Moi, je me suis souvenu d'un film. Mm-hmm. C'est la chaîne de 56 qui avait d'ailleurs eu l'ours d'argent au Festival de Berlin.
Bien,
voilà. Et on voit Sidney Poitier et Tony. Vous l'avez vu ?
Non.
Qui sont
je pense que je l'ai vu
qui s'évadent
à l'époque. Mais en tout cas, effectivement, le fait de relier deux personnages antinomiques comme ça, enfin, c'est aussi beaucoup. Il y a beaucoup de films de Francis Weber comme ça, mais les relier physiquement. C'est assez rare.
C'est un sacré défi.
Il y a eu aussi, on en parlait tout à l'heure,
les frères Farrelly
qui ont fait deux
Siamois.
Deux Siamois.
Ah oui, bien sûr.
Mais il y a eu Fricks avec deux Siamoises aussi. Enfin bon, bref, mais il y a eu très peu de films dans le genre, en fait.
Et c'est un sacré pari en termes de casting. Déjà, pour les deux acteurs, c'est très physique, j'imagine, comme tournage.
Oui, ce sont deux acteurs qui sont nouveaux dans notre cinéma, puisqu'on avait toujours pris un peu les mêmes, que ce soit Dupontel, Poulvorde. Et effectivement, c'est physique, mais c'est surtout, heureusement, qu'ils étaient assez complices l'un et l'autre, parce qu'ils
restaient
l'un dans l'autre, enfin, l'un derrière l'autre, pendant quasiment un mois. Il faut quand même avoir une bonne complicité, et justement on a su qu'ils se connaissaient avant, qu'ils s'appréciaient, donc ça a été quand même un atout pour le
tournage. Ils étaient de la même taille aussi, on s'en est rendu compte lorsqu'on les a choisis sur les trottoirs des Césars, parce qu'on faisait partie de tous les losers qui n'avaient pas eu le César ce soir-là, et n'étant pas gagnant, il n'y avait aucun taxi qui nous attendait, donc on était tous ensemble en train de rigoler. C'est comme ça qu'on a pu voir à quel point ils étaient et complices, et puis complices de notre humour aussi.
C'est-à-dire que vous avez écrit le film en pensant à eux deux, donc Vincent Macaigne et Jonathan Cohen?
Pas d'abord à eux, d'abord à deux acteurs qu'on aime beaucoup aussi, qui sont Bouly Lanners et Denis Podalydès, mais il se trouve qu'il y a eu plein de problèmes qui a fait qu'ils ne pouvaient plus, et du coup, vraiment après, on l'a écrit que pour eux, et franchement, ça s'est hyper bien passé, quoi.
Il y a un côté, souvent, donc, l'alliage des contraires aussi, clown blanc et Auguste.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr que c'est une recette qui a effectivement qui a été gagnante à travers tous les films du genre. Oui, c'est vrai, quand tu t'associes deux personnes totalement différentes qui sont obligées de cohabiter pendant un moment, c'est sûr que ça donne toujours des situations intéressantes.
Et bizarrement, parce que ça, on est en pleine promo du film, etc. Donc parfois, on est avec eux, avec les acteurs. Et c'est vrai, il y a une chose dont je ne m'étais pas rendu compte, tout bêtement, c'est qu'ils sont collés l'un à l'autre, mais ils ne se voient pas, quoi. Ce qui permet aussi de jouer en étant soi-même, parce qu'on n'est on est pas... Enfin, tout ce qui se passe chacun dans leur crâne, ils peuvent le parler sans être obsédés par la réaction de l'autre. Donc franchement, ça donne quelque chose de très étonnant. Et pour nous, en plus, en tant que cinéastes, jamais personne filme deux héros constamment à l'image. Donc ça nous a obligés à déployer des trésors d'inventivité pour les avoir soit tous les deux, soit l'un, l'autre, avec des cadres à chaque fois originaux, en tout cas.
Et oui, de ruse, parce qu'il ne peut pas y avoir du coup de champ contre champ. Mais alors, non. Justement, on entendait tout à l'heure dans l'extrait, donc les trois filles qui se retrouvent, en fait, qui sont à l'origine de cette histoire, peu abracadabrante.
Les call girls, les call girls. Comme de la call. Voilà.
Comme une call extrêmement collante.
Non, mais elles veulent dénoncer ce type d'endroit de néo-bar à prostituées, les bars à hôtesses. Enfin, elles veulent dénoncer ça. Donc, c'est pour ça qu'elles se sont surnommées les call girls. En collant les clients, a priori, leur première idée, c'était de les coller au bar, etc. Mais il se trouve que, voyant deux hommes politiques comme ça, l'une d'entre elles a eu la bonne idée de les coller carrément ensemble, quoi.
Et ces trois filles, elles viennent d'où, en fait? C'est dans le film, c'est des militantes féministes. Elles ne sont pas fémaines, mais elles se revendiquent un petit peu quand même.
Je pense que leur modèle, ça serait plutôt les fémaines, quoi. Et c'est assez dingue, d'ailleurs, puisqu'on parle des fémaines. Le film a été tourné en décembre. Elles parlent des fémaines et toc. Enfin, il y a tout un coup, on voit ce qui se passe en Ukraine. Et puis, on voit toutes ces femmes hyper courageuses là-bas. Enfin, je sais pas, il y a cette... elles ont complètement révolutionné le féminisme, en fait, quelque part, en donnant une part spectaculaire. Et nous, on voulait aussi, de notre côté, leur donner une part sympathique et comique, quoi.
Oui, comique, parce qu'à un moment, vous en montrez une qui essaye et qui renonce, finalement, à parler en écriture inclusive.
Ouais, c'est pas facile, hein, non plus.
Hein, c'est pas simple, hein. C'est une langue étrangère.
Non, mais on voulait qu'il y ait du doute même dans leurs actions et que ce soit un peu des pieds nickelés au féminin. On voulait montrer le féminisme, c'était les deux piliers de notre film, c'est l'écologie et le féminisme, mais d'une manière drôle, quoi. Et c'est l'exactiviste belge qu'on a fréquenté, notamment avec Noël Godin, l'entarteur belge, qui s'est entouré d'une bande de filles pour réaliser ses entartages. C'est leur humour, leur énergie et la façon dont ils faisaient leurs actions qui nous ont vraiment motivés et surtout nous ont aidés à trouver cette idée de col, c'est vrai, totalement abracadabrante quand on y pense. Mais l'intérêt du film, c'est d'arriver à faire passer un truc totalement débile et que ça tienne la route et qu'on n'y pense quasiment plus et que ça devienne naturel. C'était ça vraiment notre challenge dans ce film.
Et aussi de donner envie aux femmes et aux filles de faire des coups pendables comme ça, quoi.
Bah oui, vous allez peut-être donner des idées, non ?
Ouais, alors là, pour le coup, il faut faire attention, en tout cas avec la colle, la cyanolite, parce qu'on tient du cyanure, il faut quand même le dire. Donc,
ça existe vraiment, cette colle pour fusée ?
Non, la colle pour fusée, on l'a complètement inventée, mais c'était parce que c'était trop bien, on tournait du côté de Toulouse, il y a Ariane qui est là, donc il fallait qu'on trouve, tant qu'à trouver une idée, autant qu'en plus on puisse montrer cette fusée à l'écran, quoi.
J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine. Dans elle, j'aime les filles, les magazines, ne peux pas. J'aime les filles de l'autre. J'aime les filles sans papa. J'aime les filles de me gêner. J'aime les filles de se tromper.
Vous êtes bien sur RFI dans tous les cinémas du monde avec nos deux invités Gustave Kervern et Benoît Delépine et Jacques Dutronc. Un clin d'œil à la BO de votre film. Je crois que vous l'avez écrit pendant ou juste après le confinement, c'est ça ?
Juste après, c'est-à-dire que pendant le confinement, bizarrement, on était un peu comme tout le monde, enfin je sais pas vous, mais alors que c'était une phase où on était censé avoir beaucoup de temps pour écrire, mais on n'était pas tellement inspiré, on était un peu tétanisé comme tout le monde, enfin bizarrement. Puis c'était un peu complexe parce qu'on pouvait pas se projeter dans l'avenir, donc écrire un film sur le sujet, on se doutait qu'il y avait plein d'autres personnes qui allaient le faire, donc... on a hésité, on a trouvé un sujet qu'on a arrêté en plein milieu, un autre qu'on a arrêté aussi en plein milieu, avant d'en venir à cette histoire qui avait quand même le bonheur de nous faire vraiment rire, quoi. Donc,
Ça, c'est le bon critère ?
Bah, là, en ce moment,
franchement, pour nous exciter, pour partir sur un film, il faut être vraiment excité par une idée. Et on s'était dit aussi qu'avec les plateformes, justement, on en parle, c'est François Damiens qui a un peu ce rôle-là dans le film. Mais avec tout ce qu'il y a, les plateformes, tout ce qu'on peut regarder en restant chez soi, il faut quand même trouver des idées assez fortes pour les faire au cinéma.
Sortir les gens de chez eux, ça devient compliqué. Hein, quand on a un écran très large, un énorme choix de séries américaines relativement bien écrites et une pompe à bière, c'est pas évident
de sortir de la maison. Donc on s'est dit, oui, bah, fonçons sur ce projet. Alors on a eu quelques refus, hein, je ne vous cache pas.
Ça n'a pas été si simple.
Vous voulez dire d'acteurs ?
Non, pas d'acteurs, mais des chaînes de télé. Là, par exemple, de partenaires pour le film, donc il y a un petit frein, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, il y a un frein qui existe.
Alors, peut-être que c'est parce que c'est simplement une comédie qui ne respecte pas les règles de la distanciation sociale, je ne sais pas.
C'est sûr pour le coup.
On pourrait aussi aller chercher de ce côté-là.
C'est le côté sanitaire de la chose. Voilà.
Donc, en même temps où la folle nuit de deux politiciens aux antipodes l'un de l'autre, et alors eux vont sortir et au fil de leur tribulation, ils vont croiser une naturopathe un peu lunaire, Laetitia Doche, un restaurateur dépressif, vous Gustave Kervern, un autre très surexcité, François Damiens, vous en parliez, la patronne d'un bar d'hôtesse, Yolande Moreau, trois militantes féministes, celle-là même dont on parlait, India Air, Douli et Jenny Bett, sans oublier un vétérinaire qui ne recule devant rien.
C'est vraiment, vraiment pas de chance. On a une militante qui était en train de coller des affiches. Effectivement, elle avait un peu d'école, elle était dans l'âge. Et voilà, elle nous a collé.
Et vous allez vous installer tranquillement dans le box, ici, okay.
Il y a une pente,
Il y a une petite pente, oui.
Aïe. J'ai bien senti.
Et on se dirige gentiment. Alors, quel bon vent vous amène ?
Comme je te l'ai dit, hein, c'est... Attention, ne bouge pas.
C'est l'air douloureux, je bouge pas.
Allez. Attends, je t'enlève le... pour que tu vois bien.
Allez.
Oh,
excusez-moi, j'ai l'habitude de travailler avec des humains. Bon. Je peux ?
Oui.
Alors. Aïe, 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 aïe.
Oui.
Ok. Ok. Je vais essayer le diluant. C'est ce que je fais avec les poules. Quand elles se prennent les plumes dans les pièges à glu des merles. Hein ?
Bon, alors le vétérinaire, c'est Thomas Vanderberg, alias Thomas VDB. Ouais. Alors racontez-nous, Benoît, ce qu'on ne voit pas à la radio, mais en fait c'est...
Déjà, effectivement, il faut l'idée en termes de scénario. Mais après, ce qui se passe, c'est que nous, on fait des repérages, ça a beaucoup d'importance dans le cinéma qu'on fait. Et donc, en Occitanie, du côté de Toulouse, on a trouvé une clinique vétérinaire. Donc, on est allé visiter. Il se trouve qu'on est tombé dans cette clinique vétérinaire le jour où il y avait une opération d'un cheval, comme ça, qui était endormi sur une immense table d'opération. Enfin, c'était un spectacle hallucinant, digne d'une peinture. Et du coup, on s'est débrouillé pour venir tourner le jour où il y avait une autre opération d'un cheval. Donc déjà, entre ça plus Thomas VDB, mais franchement, j'ai un vétérinaire dans mon village, on aurait dit que c'était lui. Enfin, franchement, il avait le même type de physique, de phrasé. On aurait dit qu'il était vétérinaire depuis la nuit des temps. Et l'ensemble fait que ça prenait des proportions dantesques. Ça, c'est ça qui nous plaît, quoi.
Mais des fois, on a l'impression que vous écrivez une scène juste pour le plaisir d'inviter un acteur.
Ah bah lui, en plus, on adore ce qu'il fait. Donc,
voilà. C'est vrai que les guests, ça sert à ça. François Damiens, moi, je le connaissais très bien, mais Benoît, lui, c'était sa première fois et il s'en rappelle, je peux vous dire.
lui aussi.
Mais Laetitia Doche aussi. Oui, il y a un tas d'acteurs avec qui on aimerait tourner, mais même des rôles principaux. Mais comme on peut... Malheureusement, il n'y a pas tant de rôles principaux que ça. On s'arrange pour les voir dans des rôles secondaires, mais en tout cas, faire leur connaissance et après peut-être les reprendre. Il y a de très bons acteurs en France quand même, malgré tout. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait le tour. Mais
eux qui nous donnent envie de faire des films, quoi. C'est ça qui est chouette, de faire des rencontres comme ça. Et...
La soirée qu'a passée Benoît avec François Damiens, lui a vraiment donné envie de qu'on continue avec lui. Donc on a peut-être une idée pour un futur film. C'est vrai que ça donne envie parfois, ces rencontres.
Alors justement, on va vous en donner un petit aperçu de cette soirée.
Ça va, toi ? Ça va, les affaires ?
Alors, depuis que Trump a été battu...
Merde !
C'est pas si grave. C'est la sinistrose. C'est la sinistrose.
Ah bon ?
Oui. On a chopé coup sur coup les gilets jaunes, les antivax, les antiviandes de nouveau. Les Black Lives Matter, les caisses de litchis, les cagnottes de litchis, comment vous appelez ça, les cagnottes du litchis. Les appareils à raclette, les machines à fondue, les machines à faire du pain. On a tout chopé, c'était une hécatombe, je peux pas le dire autrement. Sans parler je n'en parle même pas, du streaming. Le streaming, les podcasts, les zooms, les plateformes, les home vidéos. Ce qui est incroyable, c'est que les gens ne sortent plus de chez eux. Les gens vivent en autarcie.
On pourrait l'écouter pendant des heures.
C'est
un extraordinaire monologue. Il n'y a pas un gramme d'impro.
Non, mais le fait de répéter comme ça, c'était dans le texte, mais c'est pas évident. Enfin, il faut le faire. C'est fou, quoi. Il faut le faire avec.
En fait, il a pas compris ce qu'on lui demandait parce que j'ai remarqué que les gens répétaient les phrases, mais avec deux intonations différentes. En fait, c'est. Et je crois que ça va pas aller. Donc souvent les gens font ça dans la vraie vie, dans les reportages, etc. Mais lui, il comprenait pas ce qu'on voulait. Donc on lui a dit, répète tout deux fois, même avec le même ton, mais c'est pareil. Donc ça donne un truc
qui n'était pas du tout hallucination qu'on voulait au départ. C'est extraordinaire parce que lui ne lâche jamais son sérieux. C'est-à-dire qu'après la prise, mais franchement, même Jonathan et Vincent, qui sont des acteurs chevronnés, ils avaient du mal à ne pas rire. Parce que c'est de ne pas pouffer pendant la prise, parce qu'on n'en revenait pas d'arriver à aligner ce texte-là avec un aplomb pareil.
Avec cette voix cette fossée hallucinante.
Oui, parce qu'il a, il a changé, c'est pas la voie...
Où est-ce qu'il va chercher, où est-ce qu'il est allé chercher ça?
C'est vous qui l'avez dirigé comme dans
non,
ce
non,
sens
non, non, c'est lui qui, non, je sais pas, lui, il nous a ramené ça de Belgique, tout d'un coup, il est arrivé... Ah non, mais on est resté que 3 heures avec lui, bon, ensuite...
Parce qu'il faut se dire, il se retrouve dans une sorte de grand... C'est quoi, c'est un resto, un diner américain, totalement désert, dans un centre commercial,
avec un faux rodéo.
Parce que c'est ça, mais c'est ce qui s'est passé aussi un peu avant un moment. Il n'y avait plus personne nulle part dans les lieux collectifs comme ça. Donc, c'était problématique, on va dire.
Et lui, il est un peu... Enfin, le personnage de François Damiens, il est un peu au carrefour des deux Frances que vous montrez dans le film. D'un côté, la France des gilets lits de vin, de la tête de veau. Et puis de l'autre, celle des trottinettes électriques et puis des parcs à thème.
Ah oui, là, il est typiquement France périphérique, on va dire. Mais... Non, mais
c'est
en même temps,
vous...
il croit à fond, il croyait dans son projet. Et il est un peu à croiser des chemins, on va dire.
Mais comment vous la voyez, vous, la France, aujourd'hui? Un peu comme ça,
la France des archipels.
Entre les deux.
Bah, c'est ça qui est vraiment bien, parce que Gustave habite à Paris, moi j'habite vraiment en province. Et ouais, donc, on peut confronter nos deux visions de vie, hein, dans chacun de notre côté, pour les mettre dans nos films, quoi. La France en ce moment, enfin, je sais pas, c'est très, très étonnant, mais on va pas parler politique parce qu'on n'a pas trop le droit. Hein,
C'est-à-dire qu'on est dans la période d'égalité parfaite, donc on ne peut pas citer le nom d'un candidat sans citer les 11 autres.
Oui, oui, voilà.
Parlons sociologie, donc. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, nous, des zones périurbaines, bien avant d'ailleurs qu'on en parle. Et je pense que Jérôme Fourquet nous a tout piqué pour son best-seller. Mais l'archipel, c'est ça.
L'archipel français.
Ouais, voilà. Mais c'est vrai que nous, on observe tout ça avec des yeux de sketchman, parce que nous, pour Groland, on écrit des sketchs depuis 25 ans et qu'on se tient au courant de l'actualité. On aime bien tout ça, regarder ce qui se passe en France, même décrypter, essayer de prévoir certaines choses. Et ça fait partie de notre boulot et ça, on adore ça. C'est pour ça qu'on truffe le film souvent de petites références, notamment au prix de l'essence à un moment. Voilà, on aime bien.
C'est des discussions qu'on a à longueur d'année avec les gens, enfin aussi, quoi. Enfin, des personnages comme celui-là, bien sûr qu'on ne connaît pas d'aussi caricaturaux, mais des gens qui se sont lancés dans un petit commerce et qui se retrouvent tout d'un coup en plein Covid. Bon, ça, bien sûr que ces discussions-là, on les a eues. Après, on les pousse au bout, hein, bien sûr, mais on vit dedans, quoi. Enfin, mais comme on fait un film tous les deux ans depuis maintenant quasiment 20 ans, hein, c'est notre 10e film, donc on voit ce qui se passe et on suit le mood, quoi. On est avec les gens, on les suit dans cette espèce de progression vers un monde un peu fou et de plus en plus individualiste, de plus en plus terré chez soi.
De plus en plus absurde aussi.
Dans notre film d'avant, c'était vraiment
effacé
l'historique. C'était le numérique qui nous poussait à rester chez nous. Mais avec le Covid, ça n'a rien arrangé, puisqu'on ça a été complètement dingue, cette période où non seulement on se retrouvait terré chez soi, mais en plus, quand on faisait un pas dehors, il fallait un espèce de papier en disant qu'on partait que pendant une heure. Mais c'est complètement fou, hein. On s'est plié à cet exercice, alors qu'il y avait à peine 20 000 cas par jour. Là, on en est à 200 000, plus personne n'en a rien à foutre. On est là tranquillement en train de parler sans masque. Non, mais voilà, c'est, tout ça est complètement dingue.
Vous regardez ça avec un œil amusé.
C'est
aussi une manière de dédramatiser.
Heureusement, on est en France, tu vois, on est quand même dans un pays tempéré, on est dans un pays où on peut encore manger à sa faim. Donc voilà.
Ouais, l'humour, heureusement, nous, ça fait partie intégrante de nous, mais on est assez pessimiste quand même, malgré tout. On a voulu qu'il y ait une fin optimiste dans ce film-là. Mais celui de le précédent, ça se terminait par une lune, donc un astre mort et avec la Terre derrière. Donc on a aussi eu notre phase très pessimiste. Mais on ne peut pas dire qu'on soit optimiste sur la suite des choses et sur l'avenir de l'humanité. Donc, mais bon, comme on aime bien rigoler, on prend ça avec philosophie.
Je crois qu'il vaut mieux.
Philosophie grolandaise, on va dire.
Alors c'est marrant parce que par exemple, puisqu'on est à RFI, non, mais on avait fait pas. On fait Groland aussi, qui est un petit pays insituable sur la carte du monde. Hein, donc on fait partie de.
C'est
on reçoit également RFI, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai. Et donc, mais on a fait une version. de Groland en Afrique, c'était au Burkina, et ça a été, c'était génial, quoi. C'est-à-dire que les Burkinabés se marraient autant que nous, les acteurs autant que nous à faire l'émission, etc. Enfin, ça fonctionnait. Enfin, je veux dire, l'humour est, c'est quelque chose qui est quand même partagé. Hein. C'est vraiment humain, et puis ça nous aide un peu à oublier plein de choses, à simplement à ne pas se prendre trop au sérieux déjà soi-même, et puis après, du coup, les autres, quoi.
Oh, vous entendez, là ? Un Chardonneret, un Verdier, un Bouvreuil.
Non, j'entends rien, là, y a rien.
Ben, c'est normal, parce qu'il n'y en a plus. Plus du tout. Il y a un oiseau sur trois qui a disparu en moins de 30 ans. Vas-y, prends-toi aussi son énergie, vas-y.
Tu crois ?
Oui, j'en suis sûr. Tu sens?
Oui.
Oublie tout. Oublie tout. Oublie-toi. Sois en lui. Tu vois cet arbre? Ben dans un an, il serait peut-être plus là, il sera remplacé par du béton, du plastique ou des panneaux photovoltaïques en aluminium. Ça, c'est des champignons microscopiques, tout petits, des champignons filamenteux.
Petit détour en forêt avec votre duo. Donc là, on a l'impression que c'est la scène la plus sexuelle du film, en fait. Et pourtant, on peut la raconter. Ils sont enchaînés à un arbre. Elle pourrait tendre un peu vers le ridicule. Et pourtant, moi, je la trouve magnifique.
Ouais, mais là, on voulait terminer un peu de façon un peu sérieuse ce film drôle. Effectivement, là, certains nous disent que dans la première partie, on rigole beaucoup et qu'après, on rigole un peu moins. Mais c'était vraiment une volonté de base. C'est-à-dire qu'on avait même une fin totalement gaguesque qu'on a éliminée. Mais parce qu'on voulait vraiment que ces deux sujets, donc l'écologie et le féminisme, soient pris au sérieux. Et on ne dit pas que c'est un film à message, mais on voulait quand même, ce sont deux thèmes qui nous sont très chers avec Benoît, et on ne voulait pas les galvauder et terminer par un truc qui aurait tout foutu en l'air. Donc on a pris ce virage un peu sérieux, où il raconte notamment, ben Vincent, là pour le coup, l'interconnexion entre les arbres.
Mais en plus, ça a l'air un peu hors sujet, mais ça n'est pas du tout, dans le sens où c'est quasi politique, enfin, tout ce qui se passe dans le film aussi. C'est-à-dire que la politique, c'est souvent l'affrontement de deux camps, mais qui sont deux parties de nous-mêmes, entre la volonté de liberté absolue, qui finit par un individualisme total, et puis la volonté d'égalité, qui veut dire une forme de communauté. Et ça s'affronte à longueur de temps. Puis ça n'arrive jamais à vraiment se résoudre. Et bizarrement, nos deux personnages qui, eux, se retrouvent bloqués l'un à l'autre, ça peut changer, ça change la donne. Et finalement, ils se retrouvent assez proches d'un arbre. Un arbre doit trouver des solutions, mais ils sont... Par exemple, le voisin d'un arbre, c'est toujours le même. Hein. Il a un tabou faire ce que tu veux. T'auras toujours le même arbre à côté. Donc, t'es bien obligé de prendre des... Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, par exemple, sur les arbres. Il y a un phénomène absolument génial, je trouve, c'est que les arbres, ils vont vers la lumière, comme ça. Une fois les frontières se font d'elles-mêmes, mais jamais ils essayent de...
Dans la canopée.
Dans la canopée, ils n'essayent pas d'aller bouffer la canopée de l'autre, par exemple. C'est étonnant, ça, quand même. Qu'il y ait une espèce de fine limite, comme ça, entre chaque arbre. Genre, on respecte...
Une sorte de yalta des arbres.
Bah oui, parce que si tu t'engueules, c'est la guerre. Et si tu vois, tu ne peux pas t'en sortir. Enfin, et finalement, nos deux personnages, c'est peut-être aussi grâce à ce rapprochement obligé... qu'à la fin, effectivement, ils deviennent une forme d'amitié, parce que qui dans la vie paraît assez improbable, effectivement.
C'est un peu comme dans After Hours de Scorsese, c'est-à-dire on a l'impression qu'après avoir gratté toutes les couches, ils finissent par se retrouver.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est un des films qui nous,
franchement,
qu'on adorait, qui était un peu notre matrice pour ce film, qui se passe effectivement sur une nuit aussi.
Et alors, vous deux, parce que vous montrez donc deux personnages collés l'un à l'autre, et c'est pas, j'imagine, un hasard si souvent dans vos films, il y a des duos. Vous-même, vous travaillez en duo. On
travaille en même temps.
Vous n'êtes pas collés l'un l'autre à la caméra. Il y a une répartition. Comment ça se passe, votre répartition créative de duo?
Non, c'est assez simple.
On sait toujours. On a absolument même pas eu, ne serait-ce que l'intention d'analyser comment ça se passe.
On a des plans fixes. On a choisi de faire des plans fixes ou des plans séquences. Donc, à partir du moment où on se met d'accord sur le plan et dans une originalité du plan.
On essaye d'avoir une bonne idée déjà dans notre plan.
Une bonne idée de plan. À partir du moment où on est d'accord, et là, on est souvent d'accord, ça va vite. C'est un vrai travail de duo. Après, pour les acteurs... Pour aller voir les acteurs, ça dépend. Si les acteurs sont coopératifs, on y va tous les deux. Si on sent qu'il y a des problèmes, on tire au sort.
On fait good cop, no cop.
Mais par exemple, les dialogues, les punchlines, par exemple, je ne sais pas, le ramadan, c'est comme la Fashion Week, on a l'impression que c'est tout le temps, ou l'écologie politique est bien plus catastrophique que les catastrophes qui s'annoncent. Vous les testez l'un sur l'autre, en fait, comme pour Groland ?
Non, parce qu'on se partage des scènes du film, et après, on se les envoie, je dis à Benoît, super, et il me dit, super. On n'analyse pas chaque... on ne fait pas des essais sur nos proches ou sur quoi que ce soit. Nous, à partir du moment où il me dit c'est bon, on y va. Mais on n'est pas spectateur trop de nos propres vannes, hein, on va dire. Moi, je rigole très peu à mes propres films. Et donc, ouais, c'est juste une approbation pour foncer et continuer à écrire, mais c'est tout.
Ouais, mais c'est comme sur le... Pendant le tournage lui-même, quand on est là avec nos petits casques, on écoute les acteurs, ben là, il se trouve que vraiment, tous les deux, ils avaient une complicité totale. Donc, on a eu très peu de choses tout d'un coup à changer. Enfin, ça pouvait arriver qu'il y ait des petits dépassements dans un sens ou dans un autre.
On n'est pas des très grands directeurs d'acteurs, confiance.
Mais même si on n'est pas hyper dirigiste, on se regarde l'un et l'autre, et si on est vraiment content, on passe à autre chose, quoi. Il faut vraiment que tout d'un coup, il y en ait ne serait-ce qu'un des deux qui dit, tout de suite, on recommence. Mais voilà, jusqu'à ce qu'on trouve ça bien. Il y a quand même certaines scènes qu'on a dû tourner. On a dû faire pas mal de prises.
Oui, c'est arrivé. Le seul truc qu'on a demandé à Jonathan Cohen, par exemple, au début, c'est d'enlever le petit sourire qu'il a de temps en temps quand il
l'œil
joue.
L'œil qui peut friser, quoi.
Voilà, le côté petit sourire en coin.
Second
degré, on lui a dit, c'est le seul truc qu'on lui a demandé, c'est d'essayer de penser à un truc grave tout le temps. Je ne dirai pas lequel parce que ça va choquer vos auditeurs, mais un truc qui lui sera arrivé dans son enfance. Mais enfin, bref.
Oui, pour que justement il n'y ait pas de second degré. On n'aime pas ça, en fait.
Il fallait qu'il y ait une faille toujours dans son regard, dans son personnage. Et c'est le seul truc qu'on lui a demandé. Mais sinon, après, tous les acteurs qu'on a eus sont ont tellement l'habitude et un univers très particulier que ce n'est pas la peine de leur donner plus d'indications que ça.
Merci Gustave Kervern et merci Benoît de Lépine. Restez un peu avec nous pour le journal du cinéma. Et avant cette nouveauté, Mes Kerem Mes, c'est une petite bulle de douceur qui nous vient de Belgique.
Ah. I am but a writer and have something to stay. Not much of a fighter, though I love a good debate. Can't be bothered to leave the house on any given day. For I am but a writer, and that's the writer's way. And I am but a writer, so writing's what I do. Not at all much brighter, but no one's got a clue. And drama makes my world go round, but you'll never see me cry. For I am but a writer, they only ever sigh. Instead, I will write happily my third autobiography on love. But since we've gotten tighter, you surely understand that even though I kinda like you and I think you're quite okay, I'm twice as smart as you are, so friends we cannot stay. Well, let us both go our own way, 'cause friends we cannot stay. Don't try to deny it, we both know that it's true. I wish that I could help right now, but there ain't much I can do. So don't ever try to call me, but if you find the time, just switch. On your radio, on your radio. So read a book of mine.
Vous êtes bien dans tous les cinémas du monde et c'est l'heure du journal du cinéma avec vous, Sophie, et des nouvelles du cinéma américain.
Oui, avec tout d'abord l'annonce surprise de la fin de carrière d'un des héros de Hollywood.
We get together, have a few laughs. Hey, come on, baby, come to Papa. Drop it, dickhead.
Thanks for the advice.
Can you identify yourself?
Not now.
Who are you, then?
Lying in the ointment, Hans. A pain in the ass. Call me Roy. Hey, motherfucker.
Voilà, Gustave Carverne, vous savez qui?
Bruce Willis,
je suis oui,
un peu au courant de l'actualité.
Et oui, il ne sauvera plus le monde en John McClane, ni en super-héros énigmatique dans les films de Night Shyamalan. Bruce Willis met fin à sa carrière à l'âge seulement de 67 ans. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle sur Instagram, expliquant que l'acteur au crâne rasé et au sourire narquois souffrait d'aphasie, ce qui l'empêche de communiquer. Bruce Willis s'était illustré dans de nombreux films d'action des années 90 et 2000. D'après Variety, ses films ont dégagé plus de 5 milliards de recettes dans le monde entier. Et d'ailleurs, ces dernières années, je crois qu'il avait tourné dans quelques 20 films en dépit de sa maladie.
Les acteurs américains qui font décidément parler d'eux cette semaine.
Et oui, ce que l'on a retenu de la dernière cérémonie des Oscars, ce n'est pas le trophée du meilleur film décerné à Coda, l'adaptation américaine de La famille Bélier, c'est un film français, mais bien la gifle monumentale assénée à l'animateur Chris Rock par un Will Smith en colère.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
Voilà, les gens rient, mais en fait, je ne sais pas si c'est si drôle, il y a Will Smith qui est monté sur scène après que l'humoriste Chris Rock, donc qui animait les Oscars, avait fait de l'humour sur la coiffure de sa femme, Jada Pinkett Smith, qui est atteinte d'alopécie, donc ses cheveux tombent.
Bruce Willis.
Hein. Ouais. Mais l'actrice de 50 ans, elle avait fait courageusement, enfin elle avait assumé d'ailleurs, elle assume son crâne rasé. Chris Rock se moque, Will Smith a un coup de sang. Il monte sur scène, la gifle fait le tour du monde. Alors, les internautes, mais vous en parliez justement, Gustave Carverne, les internautes glosent pour savoir si c'est un coup monté ou pas.
Oui, parce qu'il y a une vidéo où on le voit donner des fausses gifles, enfin apprendre, enfin, c'était le roi de la fausse gifle de cinéma, quoi.
En coulisses.
Non, de cinéma dans une école de théâtre,
Will
je sais pas quoi.
Oui.
Et donc, il y a la théorie du complot qui ressort, bien sûr, comme
même
là-dessus. Même là-dessus. Mais bon,
il aurait mieux fait de lui donner de prendre l'Oscar, enfin de lui mettre un coup d'Oscar dans la gueule. Là, il n'y aurait eu aucune ambiguïté.
En tout cas, enfin, c'est peut-être ça qui va faire remonter les audiences des Oscars. On ne sait jamais.
Tous les cinémas du monde sur RFI.
Au Burkina Faso, un nouveau ciné-club est né. C'est le Café Ciné et notre correspondant Yaya Boudani y était mercredi soir.
Au Café Cinéma de Ouaga, professionnel du cinéma, enseignant, historien ou simple cinéphile, visionne des films et en parle avec l'auteur, selon Salam Zampaligré, membre du consortium Génération Film, Génération Créative.
Nous n'avons pas eu cette occasion-là de découvrir ce que nos aînés ont fait. Donc c'est un cadre où nous invitons des critiques de cinéma, des réalisateurs, des scénaristes et un public. Et nous discutons après avoir vu le film en présence de ces réalisateurs-là.
Pour ce mois de mars, c'est Kounandi, le premier film de la réalisatrice Apolline Traoré qui était en projection. Kounandi retrace la vie d'une jeune fille rejetée et maltraitée, mais qui va se sacrifier en offrant son cœur à la femme de Karim, l'homme dont elle était secrètement amoureuse. Occasion pour la réalisatrice de partager son expérience avec de jeunes réalisateurs.
Je ne m'attendais pas à être aussi émue de revoir ce film après 15 ans. Et c'est vraiment mes débuts. Je suis heureuse qu'ils ont beaucoup aimé, je suis heureuse qu'ils ont compris, je suis heureuse qu'ils ont compris aussi mon message. Et ça veut dire que ce film-là est toujours d'actualité.
Critiques, enseignants, chercheurs ou simples cinéphiles ont donné leurs avis sur le film. Ghislaine Sanou est enseignante à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou.
Pour moi, c'est un magnifique film, surtout qu'il aborde une question universelle, la question de l'amour, que ce soit filial, que ce soit maternel, que ce soit le sentiment amoureux que l'on peut ressentir envers quelqu'un qu'on aime. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Et ce sont ces questions-là qui doivent gouverner, à mon avis, le monde aujourd'hui qui a de la peine à trouver la marche à suivre.
Pour Alex Moussa Savadogo, le délégué général du FESPACO qui a assisté à la projection, des espaces comme le Café Cinéma de Ouagadougou permettent au public d'avoir un autre regard sur le cinéma.
Mais avoir un espace où ce sont des entrées libres, c'est gratuit, où le public, disons, professionnel, où le public non professionnel peut arriver à se retrouver pour discuter, pour parler autour du cinéma, moi je pense que c'est comme ça. On pourrait avoir des professionnels bien aguerris, un public bien averti pour les prochaines éditions du FESPACO ou pouvoir les ramener plus tard dans les salles de cinéma.
Le Café Cinéma de Ouaga est animé avec la collaboration du cinéma numérique ambulant qui met à disposition le matériel de projection.
Voilà, c'est un reportage à Ouagadougou de notre correspondant Yaya Boudani. Et nous terminons cette semaine le journal du cinéma avec les ateliers Impala à Yaoundé au Cameroun. Pour en parler avec nous, deux cinéastes, Jean-Marie Thénault et Yves de Peretti. Bonjour.
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 Alors Yves de Peretti, ces ateliers de formation au cinéma, ils ont débuté ce lundi à Yaoundé. Mais Impala, en fait, c'est un programme beaucoup plus vaste qui concerne 11 pays d'Afrique. Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Niger, Burkina Faso, Togo, Cameroun, Centrafrique, Congo, RDC et Gabon. Et donc c'est un programme, vous me corrigerez si je me trompe, sous l'initiative des ateliers Varan.
C'est une rencontre avec Doc Monde, Africa Doc, l'extension d'école de documentaire de l'USAS au monde entier. Et nous avons eu l'idée de construire ensemble un parcours, sachant qu'eux avaient, au moment d'Africa Doc, donc, créé beaucoup de formations, notamment à Saint-Louis du Sénégal, plutôt en Afrique de l'Ouest. Et nous avions fait des ateliers récemment, notamment en République centrafricaine. Et on s'est dit, on va bâtir un parcours complet de formation qui est à la fois un volet diffusion. C'est ce volet qui a commencé à la fin de 2021 et une série d'ateliers. Donc cet atelier qui vient de démarrer lundi avec 10 réalisatrices et réalisateurs, qui va être suivi d'un autre atelier pour l'Afrique de l'Ouest, donc à Boaké en Côte d'Ivoire, au mois de juillet-août, et ensuite des ateliers d'écriture et des forums de coproduction.
Jean-Marie Thénault, vous, est-ce que c'est vrai que vos premiers films documentaires, vous les avez faits dans les années 90. Est-ce que c'est quelque chose qui manquait justement au moment où on parle beaucoup aujourd'hui de production, de coproduction panafricaine?
Oui, les producteurs, c'est ce qui manque le plus en Afrique, c'est des producteurs et pas toujours attendre que des producteurs du Nord viennent initier des projets. Donc tout ça contribue, c'est un mouvement qui se fait depuis quelques années sur le continent où on voit de plus en plus de projets qui sont faits. Et justement, en associant quelqu'un qui est originaire du Nord et quelqu'un qui est originaire du Sud pour accompagner ces différentes formations, c'est aussi pour veiller à ce que qu'il n'y ait pas toujours cette forme de transmission du nord vers le sud pour presque imposer un certain type de réflexe aux gens, mais aussi dire que de l'Afrique, on peut regarder le monde et on peut questionner ces regards qu'on nous amène de manière à arriver à avoir des réalisateurs qui soient des réalisateurs qui parlent de leur réalité, de leur point de vue et pas toujours leur réalité du point de vue des autres ou même des bailleurs de fonds.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Yves de Peretti et Jean-Marie Thénault. Et bon travail. Bon travail. Le prochain atelier Impala, donc, c'est en juillet prochain à Boaké, en Côte d'Ivoire. Donc, on rappelle à nos auditeurs d'Afrique de l'Ouest que le dépôt des candidatures, c'est jusqu'au 24 avril. Jean-Marie, si vous aviez un conseil à donner aux candidats, ce serait quoi ?
Le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de postuler. S'ils sont retenus, ils passeront cette semaine avec cette semaine de travail intense, mais aussi cette semaine de rire. Parce qu'en fait, il faut que les gens cessent de penser que le cinéma, c'est que du sérieux, 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 sérieux. Nous avons hérité de Rouge l'idée que le cinéma, c'était aussi le jeu, c'était l'amusement, mais un divertissement dans aussi une forme d'éducation et de pédagogie. Donc, on peut parler des choses même très graves dans un esprit à la fois léger et dans la bonne humeur. Et je crois que s'ils viennent à Impala, ils vont passer cette semaine avec un groupe de gens qui vivent dans une forme de convivialité, mais une convivialité éducative.
Et Yves, Yves de Peretti, votre conseil aux candidats ?
Alors, mon conseil, c'est d'être sincère. C'est-à-dire que ce qui fait l'intérêt à Varan, c'est qu'on a quelquefois des gens qui ont déjà fait des films, des gens qui n'en ont pas fait, et tous se mettent dans le bain. L'important, c'est qu'ils aient envie de dire des choses, de raconter quelque chose de leur histoire. C'est du côté du récit des histoires que ça marche. Donc c'est leur envie de dire qui compte pour nous. Après, le reste, ça s'apprend.
Merci beaucoup Yves de Peretti et merci beaucoup Jean-Marie Thénault et bon travail à tous les deux et à tous les membres des ateliers Impala cette année à Yaoundé. Et c'est donc à Yaoundé que se terminent tous les cinémas du monde cette semaine. Merci Gustave Kervern.
Eh bien merci.
Et merci Benoît Delépine.
Très heureux. Hein.
En même temps, votre nouveau film avec Jonathan Cohen et Vincent Macaigne sort mercredi prochain dans les salles. Et on peut le voir même deux fois, rien que pour le monologue de François Damiens.
Exactement. Ouais.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Lequéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine, on change de registre avec une émission spéciale consacrée à Romy Schneider et à l'exposition que lui consacre la Cinémathèque française.
Tous les cinémas du monde sur RFI.